Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour votre émission de musique liturgique sur Radio Présence. Bienvenue sur Point d'Orgue. Alors, la semaine dernière, nous avions vu, nous avions écouté différentes versions du Notre Père, une prière bien connue, et cette semaine, comme promis, je voulais m'arrêter sur une autre prière chantée que vous connaissez très certainement. Il s'agit du Salve Regina. Alors pourquoi s'attarder sur le Salve Regina? Tout simplement parce que là aussi il s'agit de quelque chose de véritablement connu et qui fait partie, à mon sens, du patrimoine de la France. Pourquoi? Parce que la France est placée sous le patronat de Marie et qu'à ce titre-là, effectivement, nous avons en France, bon également ailleurs, mais de nombreuses cathédrales, de nombreuses églises qui sont au nom de Notre-Dame. Et rien que pour cela, effectivement, je pense que c'est important de pouvoir s'ouvrir à ce type de répertoire-là. C'est également important parce que vous l'entendez assez régulièrement à la fin des offices. De manière un peu plus géographique également, nous avons une grande proximité avec le sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, dans le sud de la France, et donc c'est vrai que pour nous qui sommes plutôt dans le sud, effectivement, il y a cette proximité qui devrait être soulignée avec la Vierge et par conséquent le répertoire qui se rapporte à Marie. Alors, le Salve Regina, c'est finalement une prière d'une longue tradition dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Mais finalement, la prière a traversé les siècles, vous le connaissez sûrement en latin, donc je vous propose de vous le traduire. Salut ô reine, mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut à toi. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé, vers toi nous soupirons gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Donc il s'agissait initialement d'une antienne de procession, selon un manuscrit de Cluny, et cette prière s'est beaucoup développée au XIIe siècle par Saint Bernard, donc il y a une grande diffusion du Salve Regina par les cisterciens. Elle fait aujourd'hui partie des quatre antiennes mariales du rite romain avec l'Alma Redemptoris Mater, l'Ave Regina, le Regina Caeli et donc le Salve Regina. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il n'est pas rare de l'entendre à la fin des messes, notamment dans les églises et les cathédrales qui sont placées sous le patronat de la Vierge. À titre un petit peu plus anecdotique, je voulais vous signaler que la version grégorienne du Salve Regina avait inspiré l'hymne national de la République Corse, Dio vi salvi Regina, de 1735. Alors, pour commencer notre voyage qui va s'étaler sur plusieurs siècles, je vous propose dans un premier temps de nous poser la question un peu de l'origine, c'est-à-dire du grégorien. Il existe plusieurs façons de l'interpréter, de le chanter en grégorien, et j'ai choisi de vous faire découvrir le ton solennel. Vous l'avez très certainement déjà entendu dans plusieurs versions, c'est une version qui est assez célèbre, et elle est relativement intéressante à mon sens dans la mesure où le texte est servi par la musique. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais revenir au fil de ces écoutes, vous allez le voir, mais je trouve que c'est particulièrement flagrant ici avec le ton solennel grégorien. Vous allez voir que finalement il se dégage une profonde sérénité, une grande douceur et beaucoup d'espérance de ce chant, mais là encore nous allons y revenir. Alors je vais vous proposer une version du ton solennel du Salve Regina par les Cambridge Singers, dirigé par Monsieur John Rutter.
Exulet spiritus.
une magnifique version du ton solennel grégorien du Salve Regina. J'aime beaucoup cette version-là parce que malgré l'aspect solennel du chant, il y a beaucoup de calme et de douceur. Il y a également quelque chose sur laquelle j'avais attiré votre attention en tout début d'émission, c'était l'adéquation entre la musique et le texte. Je vais prendre un tout petit exemple pour vous le montrer. Quand il est dit « Nous crions vers toi, ad te clamamus »,« Ad te clamamus », vous avez la musique qui s'élève et vraiment là, « clamamus », on a vraiment l'écoute totale qui se fait dans la musique au service du texte. Et ça, je trouve que c'est une magnifique chose. Bien entendu, le grégorien est toujours dans cette forme-là, finalement. Ça permet toujours de mettre la musique au service du texte. C'est une version, ce ton solennel, qui était extrêmement importante dans la musique. Pourquoi ? Parce qu'elle a servi de base à de très nombreuses réinterprétations. Par exemple, il y en a une, moi, que j'aime beaucoup, je vous invite à la découvrir, il s'agit de celle du Salve Regina de Olivier Latry. Donc il y a des alternances entre le grégorien qui est chanté et Olivier Latry lui-même, le compositeur qui est également organiste de Notre-Dame de Paris, qui alterne avec des versets à l'orgue et qui sont très contemporains. Et finalement, on se rend compte que le grégorien, avec son ancienneté, finalement, est toujours extrêmement actuel. Maintenant, j'aimerais vous présenter une autre version. C'est pas une rockstar du XVIIe siècle, mais c'est quand même un compositeur qui a fait ses preuves dans de magnifiques choses. Il s'agit de Marc-Antoine Charpentier, donc un compositeur français du XVIIe qui est très célèbre pour ses messes, pour ses motets, et également, vous l'avez très certainement entendu dans le cadre de l'Eurovision, le Te Deum. Alors c'est ici une version particulièrement belle que je veux vous présenter. Il a écrit plusieurs Salve Regina, mais celle-ci, cette version-là, est très intéressante à plus d'un titre. Musicalement déjà, vous allez voir, c'est une petite merveille, un petit bijou. Mais également, je la trouve très moderne. Alors souvent, dans les chants liturgiques, il y a eu des expérimentations. On a pu parfois vouloir spatialiser la musique. Et en l'occurrence, là, Charpentier, le compositeur, a écrit ce Salve Regina pour trois chœurs, donc qui sont disséminés un petit peu dans l'espace, dans l'église, et qui permettent finalement une omniprésence du chant, de la louange pour la Vierge. Et je trouve que ça, c'est extrêmement intéressant, mais également, c'est fort, c'est une expérience forte pour les auditeurs qui voient la musique qui les entoure, qui se répond véritablement. Et bien entendu, à la fin, les chœurs se rejoignent et chantent presque d'une même voix. Je vous propose donc la version de l'ensemble instrumental et du chœur Les Métaboles, dirigé par Léo Varensky, qui interprète le Salve Regina donc à l'abbaye de Royaumont. Et soyez très attentifs aux premières notes qui sont chantées, vous y reconnaîtrez un emprunt au grégorien que vous venez d'entendre.
Oh.
après un tel final, on reste sans voix. Je trouve que cette fin est absolument extraordinaire, puisque cette fin accueille véritablement Marie dans le ciel. Vraiment, pour moi, c'est l'Assomption dans toute sa splendeur presque. Je trouve que c'est particulièrement frappant avec un procédé de solfège, enfin d'écriture, qui est l'utilisation de la tierce picarde. Alors pour vous expliquer un petit peu brièvement ce que c'est-à-dire que pendant tout le morceau, vous avez une tonalité qui est mineure, c'est-à-dire quelque chose qui est plus intimiste, certains parfois peuvent dire plus triste, alors c'est pas du tout le cas de ce morceau qui n'est pas du tout triste, mais plus intimiste en tout cas. Et le dernier accord, lui, est majeur. Et ça, c'est une autre couleur de la musique qui, elle, n'est pas intimiste, qui au contraire est une couleur de joie, et qui, à mon avis, vraiment sur une fin comme ça, surtout chantée sur le nom de Marie même, ouvre les portes du ciel à la mère du Christ. Et je trouve que c'est assez sensationnel, comme sensation en tout cas. Alors maintenant, on va abandonner le XVIIe siècle. Bien entendu, d'autres compositeurs tout à fait majeurs ont composé des Salve Regina incroyables. Je pense à Liszt, je pense à Gounod, je pense à Fauré. Mais on va aller un petit peu plus tard dans la musique et on va s'arrêter au XXe siècle avec un autre compositeur incroyable, Francis Poulenc, un compositeur français du XXe siècle. Donc, c'est quelque chose de très intéressant d'écouter la musique de Poulenc parce que Poulenc s'est converti. Enfin en tout cas, disons qu'il a eu une expérience de foi relativement intense, alors qu'au début c'était absolument pas sa tasse de thé, et finalement il a composé plusieurs motets liturgiques qui sont assez incroyables. Également pour comprendre ce Salve Regina, je pense qu'il est utile de s'attarder un petit peu, un tout petit peu en tout cas, je vous le signale, sur la relation de Poulenc avec sa mère. Il avait une grande proximité avec elle, et il est difficile quand on écoute ce Salve Regina de ne pas voir toute la tendresse du compositeur pour une figure maternelle dès le début, qui se chante presque comme une berceuse, et tout au long de la musique, il y a des indications pour les chanteurs qui sont de cet ordre-là, puisqu'il est indiqué que ça doit être chanté de façon très douce, parfois même irréelle. Il écrit irréel sur sa partition. Donc je vous propose, et on la commentera un petit peu après, d'écouter la version de Francis Poulenc du Salve Regina.
Oh.
Vous avez pu écouter la magnifique version du Swedish Chamber Choir. Là encore, le final interroge. On est à l'extrême inverse de Charpentier. On termine avec une quinte à vide, c'est-à-dire un accord très 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 pauvre. Mais finalement, là aussi, l'effet est réussi. C'est très aérien, finalement, comme fin. Et je trouve que l'objectif, avec un procédé totalement différent, l'objectif d'ascension, de légèreté et presque de bonheur est également atteint, alors que c'est totalement différent de la version de Charpentier, avec bien entendu les siècles qui les séparent. Alors cette version, elle peut sembler un peu déroutante, je vous l'accorde. La musique est bien plus particulière de Poulenc, avec effectivement des harmonies qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Mais là encore, il y a un travail complètement dingue sur le texte et sur la musicalité. Encore une fois, Ad Teclamamus, qui est redit Ad Teclamamus une deuxième fois, fait que le cœur se soulève également quand on ramène à Ève, et donc la femme qui a péché, en comparaison avec la Vierge qui, elle, a été conçue sans péché. La musique devient beaucoup plus sinueuse, exactement comme quand on évoque la vallée de larmes. Là encore une fois, la musique vient totalement servir la musique. Voilà, j'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles versions du Salve Regina que vous avez pu entendre dans nos églises, mais voilà d'autres versions qui sont à mon sens aussi tout aussi intéressantes. Pour la semaine prochaine, je serai heureux de vous proposer un pèlerinage sur plusieurs émissions sur les musiques différentes de la messe, le Kyrie, le Gloria, le Sanctus, etc. Donc je vais vous en proposer plusieurs, de sorte à pouvoir effectivement vous montrer que là aussi, il y a de magnifiques pépites dans le répertoire. Je vous souhaite une belle journée.